temps, ils n'ont pas saisi l'importance de, d'avoir cette révélation, mais cette révolution par révélation. Mais on va regarder un verset, en Matthieu chapitre 16, verset 13. Et depuis quelques semaines, et surtout cette semaine, c'est vraiment dans mon cœur, pendant mes temps de dévotion et méditation de la parole, il y a ce verset qui m'attire. Et plus je méditais cela, plus j'avais dans mon cœur de partager des choses avec vous. Aujourd'hui et probablement pour les deux prochaines semaines, on va voir après cela. Mais c'est quelque chose qui va vraiment changer nos vies. Matthieu chapitre 16, verset 13, dit ceci. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour de mort ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc là, on voit ici, si vous voulez, le commencement ou la continuation d'une révolution. Peut-être la plus grande révolution que le monde a jamais témoigné et qui continue aujourd'hui. Si nous sommes ici, ce matin, à l'Église, la vie comblée, au 670 Mélenchon, Drummondville, Québec, à 11h05 le matin, si nous sommes tous réunis aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, c'est parce que cette révolution a commencé il y a presque 2000 ans, ou plus de 2000 ans. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur de Pierre et dans le cœur des disciples qui ont suivi, qui, dans le fond, n'a pas arrêté, mais qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus est le Fils de Dieu? Alléluia! Vous êtes d'accord qu'un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth a bouleversé, il a changé la race humaine pour toujours? Il a pris 12 disciples et ces 12 disciples ont bouleversé le monde. Il avait une réputation même que quand ils sont allés prêcher dans les autres villes, les gens disaient, « Ah, ceux qui ont bouleversé le monde sont arrivés ici. » Ils ont commencé une révolution. Ils ont changé les sociétés. Ils ont changé les nations. Et ça n'a pas arrêté, en fait, cette révolution continue aujourd'hui. On a eu des hauts, on a eu des bas. On a eu des moments où la révolution a perdu de momentum. Il y a d'autres moments où on a regagné du terrain. Mais la vérité, c'est que Jésus est en train de bâtir une Église. Et son Église est triomphante, son Église est glorieuse, son Église est forte. Son Église est une force sur la planète Terre. Vous êtes d'accord? Et nous faisons partie de cela. Mais aujourd'hui, on va voir que la révolution qui a commencé à cause d'une révélation. Mais premièrement, on veut voir, c'est quoi une révolution? Une révolution, c'est un changement brusque et violent dans les choses du monde. Ça, c'est la définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire. Changement, tout le monde dit changement. Changement brusque et violent dans les choses du monde, dans les opinions et surtout dans les gouvernements. Ça, c'est une révolution, n'est-ce pas? Un changement radical. On voit les révolutionnaires, ils sont toujours les radicals, n'est-ce pas? Ils voient le status quo, ils disent « Non, ça va faire. Je refuse de continuer comme ça. On va faire une révolution. On va changer les choses. Les opinions des gens vont changer. Le gouvernement va changer. » À presque chaque fois qu'il y a une révolution, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un gouvernement qui va opprimer un peuple jusqu'au moment où le peuple dit, ça va faire, j'en ai eu assez, ça va changer radicalement maintenant. N'est-ce pas vrai? On voit ça dans l'histoire. Même ici au Québec, on a eu une révolution tranquille, n'est-ce pas? On parle de la révolution tranquille dans les années 60-70, où les choses ont changé radicalement ici au Québec. Vous êtes d'accord? Et moi, je dirais qu'il y a beaucoup de ces changements qui étaient merveilleux, des bons changements, des bonnes choses qui sont passées. Mais souvent, avec une révolution, il faut faire attention. Parce que on peut, des fois, jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein? On regarde qu'est-ce qui s'est passé en Russie. En Russie, il y avait des personnes qui étaient tannées de l'oppression des tsars et des rois riches comme Nicolas et les autres qui opprimaient le peuple. Et donc, il y avait les ultra-riches et les ultra-pauvres, et ils ont dit, ça va faire, nous allons faire une révolution. Mais le problème, c'est qu'ils ont échangé un problème pour un autre problème. Ils ont dit, bon, on va chasser les rois qui nous oppriment, et puis on va établir un nouveau système de gouvernement, le communisme, n'est-ce pas? Et pendant des décennies, le peuple en Russie ont été opprimés par un autre système, qui était aussi pire. Et savez-vous, c'est ça qui arrive souvent quand on parle d'une révolution. Même si on regarde ici au Québec, il y a des bonnes choses, les gens qui ont dit non, ça c'est pas correct, on va faire les choses différemment. Mais il y a d'autres choses qu'ils ont laissées de côté. Moi, je viens de lire juste cette semaine, j'ai lu sur Internet un article pour les nouvelles, en disant que le Québec, c'est le pays qui mène le monde contre le mariage. Il n'y a pas un autre pays sur la planète Terre où il y a moins de couples qui se marient qu'ici au Québec. Savez-vous quoi? Est-ce que vous savez? Il n'y a pas un autre pays où il y a moins de couples qui se marient qu'ici au Québec. C'est quelque chose. Ça, c'est un résultat aussi de la révolution tranquille aussi, n'est-ce pas? Hein? Mais écoute, en quelque part, il faut prendre ce qui est bon, mais il faut pas prendre tout qui n'est pas bon. Vous êtes d'accord? En quelque chose, moi je crois que le Seigneur veut faire une autre révolution au Québec. On a eu une révolution tranquille, moi je n'étais pas là. Il y en a ici qui ont vécu cela, il y a d'autres qui n'ont pas vécu cela. Mais moi je crois que le Seigneur est prêt à faire une autre révolution au Québec qui ne sera pas tranquille. Mais ça va être une révolution qui va bousculer et qui va bouleverser dans le bon sens. Une révolution spirituelle. Une révolution où l'Église du Québec va se lever et prendre sa place dans l'histoire. Et dire, nous sommes les enfants de Dieu et nous allons accomplir ce que Dieu nous a créé pour accomplir. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent avoir une révolution? Moi, j'aimerais voir une révolution dans notre Église. Je veux voir un changement brusque. Et si c'est violent, pas violent dans le sens que les gens vont être tués, non. Mais violent dans le sens que nous allons faire violence aux œuvres de Satan. Ceux qui sont opprimés par la maladie, avec violence, on va les libérer au nom de Jésus. Ceux qui sont opprimés par la dépression, avec violence, dans le bon sens, on va libérer et briser les chaînes des gens. Amen. Une révolution. Les opinions vont changer au Québec. Parce qu'il y a trop de gens qui ont des opinions qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. L'opinion de beaucoup des gens, c'est comme Jésus a dit, qui est-ce que les hommes disent que je suis? Quelques-uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es un des prophètes. Mais savez-vous quoi? Leur opinion ne valent pas grand-chose. Vous êtes d'accord? Donc, les gens ont toutes sortes d'opinions. On pose la question aujourd'hui aux Québécois, on dit, qui est Jésus? Et il y a toutes sortes de réponses. Il y a quelques-uns qui vont dire, ah, mais c'est le Fils de Dieu. Mais il y a d'autres qui vont dire, bon, c'était un grand homme, c'était un grand prophète, c'était un bon enseignant. Il nous a donné un bon exemple, un code moral à suivre. Savez-vous quoi? Les opinions doivent changer pour se conformer avec la vérité. Et puis les opinions, le gouvernement va changer aussi. Qu'est-ce qui gouverne votre vie aujourd'hui? C'est quoi? C'est qui gouverne votre vie? Est-ce que c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois? Ou est-ce que c'est le Dieu de ce siècle, Satan? Est-ce que la parole de Dieu gouverne vos actions? Est-ce que la parole de Dieu, la pensée de Dieu gouverne vos pensées? Est-ce que la parole de Dieu gouverne vos paroles? Ou est-ce que c'est autre chose qui vous gouverne aujourd'hui? Je pense que c'est le temps pour une révolution. Amen. Alléluia. On va se révolter contre les œuvres du diable. On va se révolter contre l'oppression de l'ennemi et on va dire, ça va faire, c'est le moment d'avoir une révolution. Alléluia! C'est bon ça! Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On a vu l'Église qui commence et tout le changement que ça a apporté au monde dans le premier siècle, ça continue aujourd'hui. Mais c'est seulement la révélation qui peut révolutionner ta vie. Seulement la révélation peut révolutionner ta vie. Si tu veux vraiment vivre une révolution personnelle, dans le sens que ce qui vous gouverne va changer, vos opinions vont changer pour être conformes aux opinions de Dieu. Si vous voulez que cette Église vive une révolution, que cette ville, cette province, la francophonie vive une révolution, il va falloir avoir une révélation. Et c'est quoi une révélation? C'est l'action de Dieu faisant connaître aux hommes les vérités que leur raison ne saurait découvrir. Il y a des choses qui sont vraies, mais si vous ne le savez pas, ça ne peut pas vous aider. Amen? Dieu a besoin de nous faire connaître les vérités que la raison est dans l'impossibilité à saisir. C'est pas assez pour vous et pour moi de savoir dans notre tête que Jésus est le Fils de Dieu et de croire intellectuellement que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que même si on ferait un sondage ici au Québec, quand même, on a une bonne chance qu'un bon pourcentage des gens vont quand même répondre que Jésus est le Fils de Dieu, mais sur le plan intellectuel. Ils n'ont pas eu une révélation dans leur cœur, mais ils savent les choses avec la tête. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut vous donner une révélation. Il veut révéler, regardons la prochaine définition de révéler, c'est de découvrir et de faire connaître ce qui était inconnu et secret. Inconnu et secret. Il y a des choses qui sont inconnues, mais c'est quand même vrai. Il y a des choses qui sont secrètes, mais c'est quand même vrai. Pendant des millénaires, les êtres humains ont vécu sur la planète Terre sans avoir les toilettes dans les maisons, sans avoir les lumières dans les maisons. Et c'est juste assez récent. Vous êtes d'accord que c'est récent? Si on regarde l'homme qui... On peut tracer l'histoire de l'homme. Et si on recule 6000 ans, par exemple, regarde, il n'y avait rien de ça. Pas de lumière, pas de télévision. Il n'y avait rien de ça jusqu'au 20e siècle. 19e siècle, fin du 19e siècle, pardon. Mais regardons bien. Est-ce que cela veut dire que l'électricité n'existait pas avant? C'était toujours là, n'est-ce pas? Mais les gens ne savaient pas le secret. Ils ne connaissaient pas le secret de comment capter l'électricité et s'en servir. Ils n'avaient pas encore découvert ces choses. Hein? Combien des choses que pour nous, nous prenons ça pour acquis aujourd'hui, mais pendant des millénaires, c'était caché, c'était en secret, c'était inconnu, mais aujourd'hui nous savons. Les microbes, les gens, il y a 2000 ans, ils ne connaissaient pas comment ça fonctionnait, les microbes, l'ADN, les choses de même. Ce sont toutes les choses que nous avons découvertes. Il y a des personnes, à un moment donné, qui croyaient que la Terre était plate. Vous êtes d'accord? Les gens ne savaient pas que la Terre était ronde. Ils ne savaient pas, mais la Terre était ronde quand même. Donc, combien de choses à Dieu... Juste pensons à cela. Combien de choses est-ce que Dieu a fait pour vous que vous ignorez, que vous ne savez pas? Combien de secrets caché est-ce que vous avez toujours besoin de découvrir? Combien des choses restent inconnues inutilement aujourd'hui dans votre vie? Il y a des gens ici qui sont riches, ils ne savent pas. Il y a des gens qui sont déjà guéris par la mort de Jésus, ils ne savent pas. Il y a des gens, combien de personnes sur la planète Terre ne savent pas que Jésus est mort pour leur péché et qu'ils n'ont plus besoin d'aller à l'enfer, mais ils vont quand même aller à l'enfer parce qu'ils n'ont jamais cru, ils n'ont jamais reçu, ils n'ont jamais eu une révélation de qui est Jésus. Vous me suivez ce matin? Parce que c'est important. Parce que les choses dont je parle sont les choses spirituelles. Et là, mon but ce matin, c'est de ranimer le désir dans votre cœur de recevoir davantage de révélations de Dieu. Parce que si vous pouvez recevoir plus de révélations qui viennent de Dieu, vous allez marcher dans plus de victoire, plus de puissance, plus d'autorité. Votre vie va se révolutionner. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas un Dieu qui... Il ne joue pas au cache-cache. Hein? Dieu veut se révéler à nous. Il veut vous montrer les choses à venir. En fait, il y a un verset en Amos, chapitre 3, verset 7, qui dit, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Regarde ton voisin, Dieu aime révéler ses secrets. Alléluia! Alléluia. J'ai vraiment dans mon cœur que ce message ce matin, il est tellement important. C'est la question entre la vie et la mort pour plusieurs d'entre vous, même dans le naturel. Il y a des gens que si vous ne saisissez pas ce message, vous allez peut-être mourir avant le temps. Il y a d'autres personnes que vous allez vivre dans la misère inutilement. Il y a d'autres personnes que si vous ne saisissez pas le message, vous allez passer à côté du plan de Dieu pour votre vie. Et c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut se révéler à vous. Il veut vous donner une révélation. Comme il a dit à Pierre, tu es heureux, Simon. C'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais mon Père qui est au ciel. C'est lui qui t'a révélé cela. Donc Dieu veut nous donner les révélations. Regarde bien. Mais comme Jésus a dit, ce n'est pas ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc aujourd'hui, moi en tant que pasteur, je ne peux pas, je suis dans l'impossibilité de vous donner une révélation. Il n'y a personne sur la planète Terre, je peux partager une révélation avec vous. Je peux prier pour vous pour que vous puissiez recevoir la révélation, mais je suis dans l'impossibilité de vous transmettre moi-même une révélation de Dieu. Ça, c'est seulement Dieu le Père qui peut se révéler à vous à travers son Esprit Saint. Mais regardez-moi droit dans les yeux. Vous avez besoin d'une révélation de Dieu. Vous avez besoin de saisir tout ce que Dieu veut vous révéler. Donc, mon rôle en tant que pasteur, c'est de, avec l'onction de l'Esprit Saint, vous convaincre que Dieu veut se révéler à vous, afin que vous puissiez vous mettre dans une position de recevoir cette révélation. Mais c'est à vous de prendre la décision, est-ce que vous allez le recevoir ou non. Mais regardons bien. C'est le Saint-Esprit qui transmet les révélations de Dieu. En Corinthiens 2, verset 9, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Combien de vous, vous avez entendu ce verset dans le passé? L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, c'est pas monté dans le cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour nous. Et c'est comme il y a des pasteurs même, des prédicateurs qui vont prêcher qu'on ne peut jamais savoir jusqu'à quel point Dieu est bon et toutes les choses qu'il a préparées pour nous. Mais ça, c'est pas du tout le but de ce verset. Le verset ici n'est pas en train de dire que bon, il y a des choses cachées, il y a des secrets, il y a des choses inconnues qu'on ne peut pas connaître. Au contraire, il continue et il dit ceci, « Dieu nous les a » quoi? Révélés. Révélés comment? par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, la bonne nouvelle, est-ce qu'il y a des gens qui, vous avez peut-être le goût de connaître les choses que Dieu a préparées pour vous? Avez-vous le goût de voir qu'est-ce que Dieu a préparé pour vous? Recevez la révélation. Dieu veut vous révéler ces choses. Il nous a révélé ces choses par l'Esprit. Et plus vous êtes dans l'Esprit, plus vous connaissez les choses de l'Esprit, plus vous allez voir et entendre. Le problème, c'est que nous essayons à connaître Dieu avec nos cinq sens physiques. On veut toucher, on veut voir, on veut entendre, on veut goûter, on veut sentir. Et puis, c'est comme ça qu'on veut connaître Dieu. Mais Dieu veut se révéler à travers l'Esprit. C'est une chose spirituelle. Seigneur, merci ce matin, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Parce que Seigneur, nous avons besoin de te connaître. L'Église a besoin de cette révélation afin de vivre la révolution. Au nom de Jésus. Donc, pourquoi la révélation est si importante? Trois choses que je veux que vous souligniez. Premièrement, la révélation te rend heureux. Plus tu as la révélation qui vient de l'Esprit de Dieu, plus tu vas être heureux. C'est ça que Jésus a dit, n'est-ce pas? Simon Pierre, il a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux. Pourquoi? Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, parce que tu as eu cette révélation, tu es, quoi? Heureux. Est-ce que ça veut dire que si vous n'avez pas la révélation de Dieu, vous êtes malheureux? Oui. Quelqu'un qui n'a pas la révélation de qui Dieu est, et des autres choses qu'on va voir tantôt, est malheureux. Comment est-ce qu'une personne peut être vraiment heureuse s'il ne sait pas, s'il ne connaît pas Jésus comme le Fils de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut être vraiment heureux sans avoir la révélation? Oui, il peut avoir des moments dans le naturel où il a les sentiments, les émotions, mais dans le fond de son cœur, il n'y a personne qui est heureux sans connaître Jésus. Proverbe 29, 18 dit, « Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. » Donc, ça prend une révélation afin de pouvoir obéir. Et si on obéit, dans la lumière de cette révélation, nous sommes heureux. Deuxième chose, la révélation te rend inébranlable. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, le mot Pierre et Pierre, ce n'est pas le même mot en grec. C'est Petros et Petra. Et ici, on voit que quand Jésus est en train de dire que toi, ton nom est Pierre, mais sur cette pierre, il parle de quelle pierre? Le rocher. Sur cette rocher de la révélation, je bâtirai mon Église. Donc, Jésus bâtit et construit tout ce qu'il fait dans votre vie sur la fondation d'une révélation. Pas une révélation dans ta tête, mais une révélation dans ton cœur. Tout le monde dit, j'ai besoin d'une révélation. Alléluia. Tout de suite, amen. C'est bien. J'ai besoin d'une révélation. Parce que ça va tout changer. Ça te rend inébranlable. Il a dit, sur cette pierre, sur cette rocher de révélation, je bâtirai mon Église et les portes du séjour de mort, ne prévendront point contre elle. Regarde ce verset ici. À tour, je te déclare que tu es pierre, c'est-à-dire roc, et sur cette roche, j'édifierai mon Église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. C'est qui ne peut pas être détruit par l'ennemi? C'est celui qui a reçu la révélation. On peut être sauvé. On peut être chrétien né de nouveau. On peut avoir la vie éternelle. Mais si nous n'avons pas une révélation de la vérité, on peut être quand même détruit par l'ennemi. Je ne dis pas qu'on va perdre notre salut, mais on va perdre des batailles ici sur la terre. Est-ce que vous me suivez là? On a besoin de connaître les secrets de Dieu. Ce qui est inconnu a besoin d'être découvert. On a besoin de savoir ces choses dans notre cœur parce que ça me rend inébranlable. Quand j'ai une révélation de l'œuvre de Jésus à la croix, et je sais qu'il a versé son sang pour moi, je sais qu'il est enterré, je sais qu'il est ressuscité, et que je sais, j'ai une révélation dans mon cœur que Jésus est assis à la droite du Père, il n'y a personne qui peut ébranler ma foi dans mon salut. Parce que j'ai une révélation, je sais qui je suis en Christ, je sais qui Jésus est. Personne ne peut m'ébranler. Quand j'ai une révélation de son œuvre et d'emprise, et je sais que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri, et ce n'est pas juste dans ma tête, mais j'ai une révélation de ça dans mon cœur, je suis inébranlable. Parce que les circonstances viennent, les symptômes viennent, et je peux dire, mais je sais, je connais la vérité. Je connais la vérité. Et voici qu'est-ce que Dieu a dit, et j'ai la révélation de cela. C'est pas juste dans ma tête, mais c'est dans mon cœur. Ça me rend inébranlable, et aucun ennemi ne pourra me détruire. Alléluia, est-ce que vous êtes là? Donc, la révélation te rend heureux, la révélation te rend inébranlable, et puis la révélation te rend puissant et efficace. J'ai besoin de cela, vous avez besoin de cela, nous avons besoin de cela. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et regardons bien la version de la parole vivante, si on peut regarder. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras ou permettras ici-bas sera sanctionné par quoi? Par l'autorité divine. Je ne sais pas, mais moi, je vais oser dire que la plupart de nous, je vais me mettre dans... le groupe, nous, n'avons pas encore eu une assez grande révélation de qu'est-ce que Dieu veut faire à travers nous et de l'autorité qu'il nous a confiée. Parce que là, on voit tout ce que tu interdiras ou permettras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose au nom de Jésus, c'est aussi bon que si Jésus lui-même l'a dit. Combien de vous avez eu cette révélation? Moi, je pense qu'on a besoin de demander, Seigneur, montre-nous. Pas juste dans notre tête, mais dans notre cœur. Ça va nous rendre inébranlables, ça va nous aider à faire des choses. La prochaine fois que vous avez besoin de prier pour les malades ou de faire quelque chose d'impossible dans le naturel, vous allez avoir beaucoup plus de confiance. Parce que la révélation te rend puissant et efficace. Amen? Donc, combien de vous voulez être heureux? Vous voulez être inébranlable? Vous voulez être puissant et efficace? Donc, il faut avoir une révélation de l'Esprit. Alléluia! Donc, regardons. On voit un bon exemple de quelqu'un qui a été transformé, qui a eu une révolution dans sa vie, c'est l'apôtre Paul. Combien de vous croyez que sa vie a été révolutionnée? Il y avait un changement qui était brusque et violent. Il a changé ses opinions, n'est-ce pas? Et les choses qui ont gouverné sa vie ont changé complètement. En fait, on voit un homme qui chassait les chrétiens, qui tuait les chrétiens, qui mettait les chrétiens en prison, complètement changé de A à Z, en train de faire le contraire. Imaginez aujourd'hui Bin Laden qui décide qu'il va renoncer à toutes ses œuvres terroriste, et puis il va commencer une campagne pour éliminer tous les terroristes du monde. Ça serait quelque chose, n'est-ce pas? Combien de vous serez prêts à aller le voir et prier pour lui, hein? Je pense à Ananias, en Actes chapitre 9, quand Saul de Tarse était converti sur la route de Damas, il était complètement changé, mais les gens ne savaient pas. Ils n'ont pas eu la révélation. Et puis, quand Dieu a parlé à Ananias, il dit, bon, va à une telle rue et prie pour Saul de Tarse. Il est là, il prie, et tout de suite, il dit, mais Seigneur, j'ai entendu parler de lui. Hein, imaginez, vous avez une vision dans la nuit, et Dieu dit, bon, je veux que vous ayez, je vais vous montrer où se trouve Ben Laden. Il est là, il vient de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Va prier pour lui pour qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Combien de vous seriez prêts à aller, hein? Ça, laisse-moi vous dire, ça prendrait une révélation, n'est-ce pas? Pas juste dans ma tête, mais dans mon cœur, que c'est vraiment Dieu. Mais regarde bien. On voit en Galates, chapitre 1, verset 15, Paul parle de lui-même. Frère, je vous le déclare, la bonne nouvelle que j'annonce n'est pas une intention, n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas un homme qui me l'a transmise ou enseignée, mais c'est Jésus-Christ qui me l'a, quoi? Révélée. Encore, pourquoi est-ce qu'il était si transformé? C'est parce qu'il avait une révélation. Vous avez entendu parler de la façon dont je me comportais quand j'étais encore attaché à la religion juive. Vous savez avec quelle violence je persécutais l'Église de Dieu et m'efforçais de la détruire. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a choisi avant même que je sois né. Savez-vous que vous avez été choisi même avant d'être tissé dans le ventre de votre mère? Même que je sois né, et il m'a appelé à le servir. Et quand il décida de me révéler son fils, de faire quoi? Me révéler, souligner le mot révéler, son fils, pour que je le fasse connaître parmi les non-juifs, je ne suis allé demander conseil à personne. Donc, Paul dit que si ma vie a été transformée, c'est parce que j'ai eu une révélation de Jésus-Christ. Et si votre vie va être transformée, moi, je suis tanné. Est-ce que je peux dire ça? Je suis tanné de voir les personnes qui viennent à l'église sans jamais être transformées. Année après année, après année, après année, ils viennent, ils s'assoient, ils quittent, mais ils ne sont pas transformés. Lundi au samedi, ils vivent comme le diable. Dimanche, oh, pourquoi est-ce que je dis cela? Je ne sais pas. Vous m'aimez toujours? Je ne parle pas à personne en particulier, hein, mais je parle de mes années d'expérience dans le corps de Christ. Je connais les églises. Et je sais combien des fois, pas juste dans cette église, mais dans toutes les églises, il y a toujours des gens qui viennent, qui assistent aux prédications, et qui vont chanter les chants, et puis ils quittent, et ils vivent comme le diable toute la semaine. Qu'est-ce qui se passe? Plutôt, qu'est-ce qui se passe pas? Ils n'ont jamais eu une révélation. Parce que de un, si tu as une révélation de qui Jésus est, wow, ça va changer votre vie. Si tu as une révélation de jusqu'à quel point le péché détruit la vie, wow, ça va changer votre vie, vous n'aurez plus le goût. Amen. Amen. Donc, où est-ce que j'étais avant de commencer là? On parlait de l'apôtre Paul, il avait une révélation. Il a eu une révolution à cause de cette révélation aussi. Savez-vous quoi? Je pense que vous et moi, nous avons besoin de commencer une révolution dans nos vies aussi. Il y a des choses qu'on peut faire pour provoquer cette révolution. Et c'est ça que je vais juste terminer avec quatre points simples aujourd'hui. On va prendre l'exemple de l'apôtre Paul. Mais je vais, encore, je ne peux pas vous donner la révélation aujourd'hui. Je peux vous inviter à ouvrir votre cœur à recevoir la révélation. Comment commencer une révolution? Ça vous tente de savoir comment? Regardons. Paul, qui connaissait l'importance de la révélation dans la vie des chrétiens, il a prié une prière pour les Éphésiens. C'est une prière que nous pouvons prier pour nous-mêmes aussi. Il a dit, je ne cesse. C'est pas une chose qu'il a fait une fois. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça, c'est ma prière pour vous. Ça, c'est ma prière pour nous. Que le Seigneur nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Seigneur, aide-nous à voir les choses qui sont cachées. Fais-nous connaître les choses inconnues pour qu'on soit heureux, inébranlable, puissant et efficace. C'est ça mon désir. Ça, c'est votre désir aussi, n'est-ce pas? On va juste prendre l'exemple de Paul ici. Et on voit quand il était plus tard dans sa vie, son ministère, il racontait son témoignage. Il a dit ceci, verset 9 de Acte 26. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Savez-vous quoi, qu'est-ce qui était intéressant? Saul de Tarse était convaincu qu'il était sur la bonne route. Quand il tuait les chrétiens, il était convaincu qu'il faisait la bonne affaire. Combien de personnes à Drummondville sont convaincues qu'ils font la bonne affaire? Combien de gens sont convaincus que leur vie est belle, que tout va bien, que leurs opinions sont les bonnes opinions, que les choses, les principes qui les gouvernent sont les bons principes? Combien de personnes sont convaincus que, bon, le mariage ne vaut plus rien aujourd'hui, c'est pas nécessaire. Ça, c'est l'opinion courante. N'est-ce pas? Ça, c'est l'idée qui gouverne. Et ça, c'est juste un exemple. Combien de gens pensent être sur la bonne... La Bible dit qu'il y a un chemin qui semble bon à l'homme, mais son issue, c'est l'issue de la mort. Moi aussi, à un moment donné dans ma vie, je pensais être sur le bon chemin, mais je me suis trompé. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints et ont reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusqu'à dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendais à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Il agit avec autorité. Autorité humaine. Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel. Ce dont nous avons besoin, c'est une lumière qui vient du ciel. Pas forcément dans le physique comme lui il avait, mais dans l'esprit, on a tous besoin d'une lumière du ciel. Et c'est pourquoi Paul a prié que les yeux de votre cœur soient illuminés. Regardons. Et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Donc on voit que Paul a eu une révolution parce qu'il a eu une révélation. C'était quoi qui était révélé? Numéro un, qu'est-ce qu'on peut demander aussi? Demande une révélation de qui est Jésus. Première question que Jésus a posée, hein? Qui est-ce que les hommes disent que je suis? Les hommes disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres en est prophète. Mais qui est-ce que vous dites que je suis? Donc, je vous pose la question, pour vous, qui est Jésus aujourd'hui? Avez-vous une révélation? Si pour vous, Jésus, c'est mon petit Jésus, hein, et tu as juste cette image de Jésus dans la crèche, ou tu as cette image de Jésus qu'on voit dans les films ou les tableaux, ce Jésus qui est, je sais pas, presque féminin des fois. Est-ce que je peux dire, hein? C'est quoi votre image de Jésus? Qui est Jésus pour vous? Avez-vous la révélation que Jésus est le Fils de Dieu vivant? Moi, je peux vous dire cela avec mes mots, mais vous avez besoin d'une révélation dans votre cœur. Parce qu'une fois que vous saisissiez qui il est, vous allez vous prosterner. Vous ne pouvez pas faire autrement. Si Jésus est vraiment qui il dit qu'il est, il est digne de ma louange, il est digne de ma dévotion, il est digne de ma vie entière. Il faut que je vive pour lui, je n'ai pas le choix, parce qu'il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas dire, oh, je crois en Jésus, et vivre pour le diable, c'est impossible. Si vous avez une révélation de qui il est. Donc demande, Seigneur, montre-nous qui tu es pour vrai. C'est ça qui s'est passé avec Paul, Actes 26, 14. Nous sommes tous tombés à terre et j'ai entendu une voix qui me disait en araméen, Saul, Saul, savez-vous que Jésus connaît votre nom? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et c'est en vain que tu résistes comme l'animal qui rue contre le bâton de son maître. J'ai demandé, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur m'a répondu. Savez-vous que le Seigneur répond toujours? Je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Première question. Qui es-tu, Jésus? Numéro deux, demande une révélation de ton identité en lui. N'est-ce pas intéressant? Juste écoutez ceci. Que quand Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus a dit, oh, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est quoi la prochaine chose qui s'est passée? Pierre venait d'avoir une révélation de l'identité de Christ, et tout de suite après, Jésus lui a révélé son identité. Son nom, c'était Simon, mais là, il a dit, je te dis, ton nom est Pierre. Dès qu'on sait qui Jésus est, on sait qui nous sommes. Donc, demande, Seigneur, donne-moi une révélation de mon identité. Mais je suis Ken Taylor. Oui, je suis Ken Taylor. Ça, c'est le nom que ma mère m'a donné, mon père m'a donné. Mais je suis plus que Ken Taylor, né à Saint-Charles le 15 février 1967. Je suis un enfant de Dieu, né de nouveau en 1976. Je suis membre de la famille royale. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Et c'est pas juste des choses qu'on doit connaître là. Il faut avoir une révélation de qui je suis. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi, quand j'entends les chrétiens dire, ben écoute, je suis faite de même. 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 Je veux dire, arrêtez de dire ça! Vous êtes faite à l'image de Dieu, la Bible dit. Il a fait de vous une nouvelle création. Demande une révélation de ton identité en lui. Ce soir, qu'il s'est passé avec Paul encore, Saul. Acte 26, 16. Mais relève-toi, Jésus a dit. Tiens-toi debout. Je te suis apparu pour faire de toi mon serviteur. Wouh! Celui qui persécutait et tuait va devenir son serviteur. Tu seras mon témoin pour annoncer comment tu m'as vu aujourd'hui et proclamer ce que je te révélerai encore. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Wow! C'est tellement bon parce que si seulement tu sais, l'apôtre Paul, c'est l'homme qui a eu peut-être le plus de révélations sur qui est Jésus, qui est l'Église et qu'est-ce que nous sommes destinés à faire. Alléluia! On voit dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est comme une photo de Jésus et qui il est. Une photo de l'Église. On voit une image de cela. Mais savez-vous que quand nous lisons dans les épîtres que l'apôtre Paul a écrit, nous voyons le rayon X de qui est Jésus. On voit à l'intérieur, on voit plus profond qui il est. Et qui nous sommes. Et Dieu l'a choisi à proclamer ce que je te révélerai encore. Il a eu des révélations. Et nous avons entre nos mains ces révélations. Mais ça prend toujours l'action du Saint-Esprit pour qu'on puisse les comprendre. J'espère que ce matin, même il y a des gens qui disent, mais je comprends, mais je comprends pas. Je comprends, je comprends pas. Ça, c'est exactement ce que je suis en train de dire ce matin. Dieu veut que vous ayez faim et soif d'aller chercher plus haut, dans tes profondeurs, les choses de Dieu. Amen. Demande une révélation. Oh, mais regardons bien. En Timothée 1, 13, il fallait que je mette ça dans les notes aujourd'hui. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Wow! Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Regarde trois choses qu'il a dit à propos de sa vie avant Jésus. Il était blasphémateur, persécuteur, homme violent. C'est pas un bon CV, vous êtes d'accord? Mais regarde le nouveau CV que Dieu a fait pour lui. Regarde 2 Timothée 1:11. C'est pour annoncer cette bonne nouvelle que j'ai été établi prédicateur, apôtre, enseignant. Alléluia! Gloire à Dieu! Celui qui était blasphémateur est maintenant prédicateur. Celui qui était persécuteur est maintenant apôtre. Celui qui était un homme violent est maintenant enseignant. Une nouvelle identité en Jésus-Christ. Et c'est ça que Dieu veut faire dans chacun de nos vies. Une révolution. Mais ça prend une révélation. Alléluia. Numéro 3, demande une révélation de ton autorité en Christ aussi. Seigneur, montre-moi dans mon cœur l'autorité que tu nous as confiée. C'est ça qui s'est passé avec Paul encore. Je t'envoie, Jésus qui parle, je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, pour que tu les ramènes de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. S'ils croient en moi, ils recevront le pardon de leurs péchés et une place parmi ceux qui appartiennent à Dieu. Vous voyez, Jésus a révélé à Paul, je vais t'envoyer dans les nations, les personnes, les païens, les gens qui connaissent rien de moi, et je vais t'envoyer pour ouvrir leurs yeux, pour faire en sorte qu'ils soient délivrés et changent le pouvoir, la puissance des ténèbres et à Satan et qu'ils viennent sous la puissance de Dieu. Tu vas provoquer les révolutions, Paul, par où que tu ailles. Tu vas provoquer les révolutions. Les opinions des gens vont changer. Et les gouvernements vont changer à cause de toi. C'est quelque chose, hein? Alléluia, quelle autorité. Luc 10, 19 dit, écoutez bien ceci, il est vrai. N'oubliez pas que une révélation, c'est quand Dieu nous fait connaître ou découvrir les vérités qui ne peuvent pas être saisi avec l'intelligence. Écoutez bien ceci, il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Ça, c'est notre autorité en Jésus. On a besoin d'une révélation. Puis finalement, numéro 4, demande une révélation de ta responsabilité. Seigneur, je sais qui est Jésus. J'ai une révélation de mon identité, de mon autorité, mais après tout cela, c'est pas assez. Paul avait besoin d'une révélation de sa responsabilité aussi. C'est pourquoi Paul a dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Paul a dit ceci, je me dois aux Grecs et aux barbares. C'est ça qu'il a dit, c'est pourquoi j'ai hâte, j'ai une vive désir même de prêcher l'Évangile à vous qui êtes Rome parce que j'ai pas honte de l'Évangile. Regarde qu'est-ce qui est marqué dans ce verset. Et on va terminer avec ceci. Si Jean-Charles, tu peux venir. Après cela, au roi, pouvais-je refuser d'obéir à cette vision venue du ciel? Je vais vous poser la question. Pouvez-vous choisir de désobéir à la vision et à la révélation que Dieu veut vous donner de son Fils, de votre identité, de votre autorité? Regardons. J'ai donc commencé à prêcher. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oui Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Commencer à prêcher. Ton amour. Seigneur, ouvre les yeux. Illumine les cœurs, Seigneur, qu'on puisse voir ton amour, ta puissance. Merci, Seigneur. Alléluia. Commencer à prêcher d'abord aux habitants de Damas, puis à ceux de Jérusalem et de toute la Judée, plus tard, enfin, aux autres peuples. Il n'a jamais arrêté non plus. J'ai commencé, il a continué. Seigneur, je sais que dès que nous avons la révélation, nous allons commencer à prêcher. Alléluia. Ce matin, mon cœur est vraiment touché. Dans les jours, les semaines à venir, je vous invite à prier cette prière pour que le Seigneur puisse te donner un esprit de sagesse et de révélation. Mais avant de terminer aujourd'hui, et même la semaine prochaine, je crois que nous allons voir les choses pratiques. Comment augmenter la révélation dans sa vie? Parce qu'il y a des choses que Dieu dit dans sa parole qu'on peut faire pour augmenter cette révélation. Mais ce matin, avant de terminer, je vais vous inviter à répondre à Jésus. Il y a des gens ici, Dieu vous appelle à prêcher. Mais avant de prêcher, il faut recevoir la révélation. Mais aujourd'hui, si on peut regarder, dernière chose que Paul dit ici, je leur ai annoncé qu'ils devaient changer et se tourner vers Dieu. Par une réelle conversion, en prouvant par des actes la réalité de leur changement intérieur. Aujourd'hui, je veux juste savoir s'il y a des gens qui sont ici présents, qui n'ont jamais pris une décision de se tourner vers Dieu. Dans votre tête, vous croyez que Jésus est là. Vous avez toujours cru, peut-être depuis votre enfance, que Jésus est le Fils de Dieu dans votre tête. Mais aujourd'hui, sachez que Dieu veut que vous prouviez que vous êtes prêt à le recevoir comme Seigneur et Maître de votre vie. La parole de Dieu dit que si tu confesses avec ta bouche que Jésus est ton Seigneur et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je vais juste donner l'occasion. Parce que Jésus a dit ceci, que si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est au ciel. Laisse-moi vous assurer, une fois que vous avez une révélation de Dieu et de Jésus, et jusqu'à quel point il est bon, grand, puissant et merveilleux, tu n'auras rien à craindre pour dire oui, j'aime Jésus. Tu n'auras pas honte de lui parce que tu vas avoir une révélation. Comment est-ce qu'on peut avoir honte de celui qui a créé l'univers? Donc ce matin, s'il y a quelqu'un qui dirait, « Pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi parce que je ne suis pas sûr et certain à 100% que j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. Je crois en lui. Peut-être tu pries. Prier, ce n'est pas assez. Peut-être tu vas à l'église. Aller à l'église, c'est pas assez. Tu crois, même le diable, il croit, c'est pas assez. La Bible dit, il faut confesser, il faut recevoir Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un Je vais juste compter à trois. Et si vous êtes là, vous voulez donner votre vie à Jésus, juste levez la main haut dans l'air. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Un, deux, trois. Levez la main dans l'air. Il y a une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin? Viens ici, en avant. On va prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de donner ta vie à Jésus ce matin? Et restons sensibles à sa présence. Si quelqu'un, peut-être, dit, oh, je suis un peu gêné, embarrassé, je comprends, mais là, nous sommes les chrétiens, nous aimons Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alléluia! Tu viens d'avoir une révélation dans ton cœur ce matin que Jésus n'est pas vraiment ton Seigneur. Viens-t'en. Merveilleux, merveilleux. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alléluia. Quelqu'un d'autre, vous lavez la main? Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ces deux personnes ce matin? Et ce que je veux faire, moi, je veux faire une prière avec vous deux et avec toute la congrégation. Et si tu pries cette prière de tout ton cœur, du fond de ton cœur, Dieu va faire quelque chose dans ton esprit. Il va faire de toi une nouvelle création. Tous tes péchés vont laver comme si tu n'as jamais rien fait de mal. Tu vas commencer une nouvelle vie, un nouveau départ avec Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Donc, on va prier cette prière. Donc, juste répétez après moi, tout le monde avec moi. Père Céleste, je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre pour toi. Merci que ton sang m'a lavé, m'a purifié. Je suis pardonné. Je pars à zéro aujourd'hui. Une nouvelle vie. Je suis ton enfant. Et je confesse aujourd'hui, devant ces hommes et ces femmes, que je n'ai pas honte de Jésus-Christ. Je t'aime, Seigneur. Je suis ton enfant. Je suis sauvé. Et je vais vivre pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, c'est merveilleux. On va remercier le Seigneur encore. Je sais que ça prend beaucoup de courage de venir comme ça. Mais nous avons un cadeau qu'on veut vous offrir. Une nouvelle Bible, c'est gratuit. On veut vous donner ça. Et donc, on a Caroline et Pasteur Claude, qui sont nos assistants pasteurs, ils vont juste vous donner ça, ça va prendre juste 2-3 minutes. Et si vous avez des questions, vous pouvez leur poser des questions. On s'est juste aller avec 2 secondes pour vos bibles. Donc, merci Seigneur, Dieu est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Tu as quelque chose à dire? OK. Hein? On a... Est-ce qu'on peut avoir un micro? Ou, Alléluia. Oh, voilà.
Après un bon message comme celui-ci, Seigneur, vous mettez une exhortation sur mon cœur pour l'Église. Parce qu'on a parlé de comment on veut le connaître plus, on veut aller en plus, plus grande profondeur avec lui dans la révélation de son amour. Donc, Éphésiens 2 nous parle de l'amour de Dieu. Nous parle de ce que nous étions autrefois. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde et dans... à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc, vous savez que dans le monde même, ils ont du bon sens. On voit les autorités qui en ont assez avec l'alcool au volant. Et on voit des annonces partout. L'alcool, c'est tolérance zéro. Maintenant que nous avons la révélation à quel point Dieu nous aime, ce qu'il a fait pour nous, on était autrefois de leur nombre, on était morts par nos péchés. Mais vous savez que nous sommes garants du temple de Dieu. C'est nous qui avons l'autorité sur nos personnes. Et c'est à nous de dire, c'est tolérance zéro maintenant pour le péché dans ma vie. Il ne faut plus tolérer le péché dans nos vies. Il faut se faire violence, c'est tolérance zéro. alors on va comprendre, on va avoir plus de révélation dans les choses de Dieu. On va aller plus haut. On va grandir avec lui, puis on va avoir un impact. Nos vies vont avoir une efficacité pour la gloire de Dieu. Mais il faut se faire violence. Il faut arrêter de dire, oh, mais ça, je ne suis pas capable de c'est plus fort que moi, comme Pasteur Ken disait. C'est une habitude que j'ai. C'est tolérance zéro. Si on est capable de le faire dans le monde, on peut le faire dans l'Église de Jésus-Christ.
Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est bon. Savez-vous pourquoi? Je vous aime. Et j'aime Jésus. Alléluia. Merci de votre attention et écoute ce matin. C'est pour la gloire de Dieu. Moi, je sais que cette semaine, le Seigneur, si vous avez encore bien disposé, le Seigneur va vous donner des révélations de son amour, de son sa raison d'être pour vous ici sur la terre, et vous allez avoir des belles choses. Oui, vous avez quelque chose aussi, c'est correct.
Je l'ai pas le partager, mais avec commencer à la porte, ça va faire le Saint-Esprit tantôt nous disait pendant qu'on était dans les louanges. Si on n'agit pas, si j'agis pas en toi, je vais me parler pour moi, mais on peut se mettre tout ça personnel, si j'agis pas encore plus en toi, c'est parce que tu penses juste à toi. Tu penses juste à toi. Moi, je veux me révéler davantage, mais moins de toi et plus de moi.
On va se lever debout, on va chanter. Alléluia. Mais on ne va pas arrêter aujourd'hui, hein? On ne termine pas la réunion. La réunion d'aujourd'hui n'est pas terminée. On va juste changer de place.